un sujet important, c'est une forme d'exclusion dont on ne parle pas souvent, ou alors à mot couvert, la grossophobie, autrement dit l'hostilité envers les personnes en surpoids ou en obésité. Et c'est d'autant plus injuste qu'on sait désormais, les études scientifiques l'ont établi, que suivre des régimes finit par faire grossir. Donc les personnes grosses sont souvent tout le contraire de personnes qui se laissent aller. La douarnéniste Stéphanie Pierry, qui est aussi une des voix de la web radio Vos gueules les mouettes, a creusé le sujet jusqu'à en faire un documentaire sonore qui a pour titre « Mon corps opératoire, une dérive bariatrique ». Bon, ça peut sembler obscur, mais vous allez comprendre. C'est un documentaire qui a été coproduit par le labo de la radio-télévision suisse avec le soutien de la bourse Brouillon d'un rêve de la SCAM, Société des auteurs multimédia. Stéphanie a pu faire écouter son documentaire lors du festival de cinéma de Douarnenez fin août, car le festival était cette année tourné vers la Suisse.
On m'a proposé à un moment donné de peut-être faire une chirurgie bariatrique parce que mon poids en fait s'est envolé depuis des années, etc. etc. Et puis du coup, devant la perspective de cette opération, je me suis dit bon sang, j'en suis donc rendue là dans l'image de mon corps, à être rendue au stade de potentiellement opérable, donc ça veut dire une obésité sévère hein, quand même. Et ça m'a mis très en colère. En fait, de me rendre compte que depuis des années, je faisais en sorte de contraindre mon corps et de régime en régime et de régime en régime, et de me rendre compte que quand j'en arrivais à cette solution finale, un peu, c'était terrible.
Et puis pareil. C'était quel genre de chirurgie ouais, qu'on proposait ?
Alors aujourd'hui, en fait, au niveau des chirurgies, on ne pratique plus l'anneau. L'anneau gastrique, ça se fait plus parce que ça, en fait, c'était un corps étranger qui était inséré dans l'abdomen et du coup qui entraînait d'abord des complications médicales bien souvent, qui entraînait une perte de poids rapide bien souvent, mais c'était l'époque où on n'accompagnait pas les patients à un rééquilibrage, à une rééducation alimentaire dans leur pratique alimentaire et surtout dans le suivi psychologique qui peut être lié souvent à des dérives alimentaires. Et ça fait que les gens perdent effectivement du poids rapidement, mais qu'au bout de 10 ans, de toute façon, il fallait l'enlever, l'anneau. Et donc, bien évidemment, les gens recommençaient avoir des pratiques alimentaires comme avant, donc à refaire exploser les quantités au niveau des quantités, donc les gens reprenaient du poids et voire beaucoup plus en fait dans un grand nombre de cas. Donc aujourd'hui il y a deux opérations qui sont en cours, c'est le gastric bypass et la sleeve gastrectomie. La sleeve gastrectomie c'est quelque chose d'irréversible, on enlève les trois quarts de l'estomac, on coupe les trois quarts de l'estomac et on les retire. Donc la sleeve ça veut dire manchon, l'estomac devient un manchon, donc bien évidemment on peut plus ingérer les mêmes quantités d'aliments parce que ça passe plus. Cette opération-là entraîne quand même un certain nombre de complications alimentaires dans la prise alimentaire classique, hein, même avec voilà, des nausées, des mal-êtres, des problèmes de malnutrition. Enfin, c'est quand même voilà, une opération qui peut être, mais qui est très pratiquée encore hein, et qui a beaucoup d'avantages aussi, dans le sens qu'elle est efficace, quoi, ça pour le coup. Maintenant, si les gens, pareil, n'ont pas rééquilibré leur rapport à l'alimentation, ça peut entraîner des complications très graves et des reprises de poids malgré tout au bout d'un certain nombre d'années. Et il y a le gastric bypass qui, lui, c'est la même chose. On n'enlève pas, mais enfin, on ferme une partie de l'estomac. Donc pareil, les trois quarts de l'estomac ne sont plus fonctionnels. Mais en plus, on pratique une dérivation intestinale, c'est-à-dire qu'on vient raccorder l'estomac dans un niveau plus bas de l'intestin. Donc en plus de manger moins, on n'assimile pas non plus les aliments, les nutriments, etc., les vitamines, les calories, etc. Donc effectivement, alors là, pour le coup, la perte de poids, elle est assez drastique aussi et souvent très rapide. Mais là également, il faut aussi un rééquilibrage global de la santé globale de la personne, parce que si les pratiques alimentaires, elles ne changent pas, bah dans les années qui suivent, il peut y avoir des complications. C'est aussi des opérations qui entraînent des complications médicales pendant, après, enfin voilà, c'est quand même des opérations très très lourdes. Quoi.
Ouais, donc ce qu'on comprend, c'est que c'est violent, quelque part, c'est une violence qu'on va se faire. Donc c'est ça la colère, l'origine de la colère ?
Non, l'origine de la colère, alors je ne parlerai pas de violence quand même, parce que dans les cas d'obésité morbide, des personnes qui ont quand même du diabète, des complexités à se mouvoir même, qui sont dans une exclusion sociale intégrale, etc., etc., la chirurgie bariatrique reste quand même une solution réelle. Hein. Enfin, il ne faut quand même pas non plus maintenant je trouve qu'elle pose des questions sur la société, elle raconte quelque chose. D'abord il y a une augmentation de l'obésité, ça c'est une certitude, et il y a plein de raisons sociologiques pour l'expliquer, mais là, la colère c'était en fait de me rendre compte que j'étais devenue obèse parce que j'avais pas commencé à accepter mon corps grosse au départ, et en fait ma colère c'était la grossophobie tout simplement. Moi je travaille aussi avec les enfants et les adolescents et je vois à quel point la question de la grosseur chez les petites filles, bon Ça se pose aussi chez les garçons, mais c'est pas la même histoire. Donc moi, je parle des choses sous l'angle des femmes. Je dis pas qu'aujourd'hui les garçons aussi ne subissent pas des injonctions. C'est totalement le cas, mais c'est pas les mêmes. Et c'est pas le fruit, voilà, du même inconscient collectif et tout ça. Donc voilà. Donc du coup, en fait, ma colère, elle venait de là, de dire bon sang, en fait, d'avoir à ce point tenté de dompter mon corps parce que j'étais juste grosse. Si j'avais commencé, en fait, adolescente, enfant, à accepter ce corps tel qu'il était dans sa diversité par rapport aux autres, etc., j'aurais pas cherché à le transformer et je serais donc pas devenue obèse. Voilà, la colère, elle vient de là. La colère, elle vient de toutes les exclusions, des stigmatisations que subissent les grosses. Ça rend très en colère de se rendre compte qu'une femme n'est qu'une carrosserie extérieure, une apparence, et qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a à l'intérieur, et que notre réussite sociale, professionnelle, amoureuse, comme je dis dans le documentaire, elle est conditionnée par notre apparence physique. C'est insupportable, en fait.
Et donc, ce documentaire, il est presque thérapeutique, du coup, enfin...
C'est clair, faut que je reconnaisse, parce qu'effectivement je l'ai fait parallèlement à ma propre réflexion. Est-ce que je vais jusqu'à l'opération ou est-ce que je n'y vais pas? Donc je donne la réponse dans le documentaire, donc je ne donne mais oui, bien sûr que c'était cathartique, hein, bien sûr, hein. C'était une démarche personnelle où j'avais besoin de faire quelque chose de cette colère qui m'habitait depuis toujours, hein, et de dire à un moment donné, elle est centrale dans ma vie, cette question de la grosseur, du rapport au complexe, à un corps qui m'entrave dans ma façon d'être au monde, à un moment donné, je vais le mettre au centre de quelque chose de créatif et je vais en faire quelque chose. Et c'est un peu la démarche que je fais dans ma vie. Bon, après, on peut parler de spiritualité ou je ne sais pas, c'est peut-être juste le fait de vieillir, de dire à un moment donné ce qui nous entrave, ce qui nous empêche, est-ce qu'on ne devrait pas en faire une force, et voilà, et en faire quelque chose. Et je pense qu'effectivement, c'est en ça que c'est probablement juste dans ce que je fais, quoi.
Et alors, comment il s'est construit le documentaire? Alors, juste autour de ton expérience ou t'es allé voir d'autres gens ou...
Oui, alors moi, l'idée, c'était pas de me mettre en scène, moi, au départ, hein, du tout, du tout. Je voulais faire une enquête. Je voulais faire une enquête sur toutes les questions de la norme. Donc à la fois d'un point de vue social, comme je disais, historique, mais aussi philosophique, psychologique, etc. Comment se constitue le rapport et la fabrique du dégoût des grosses? D'où ça vient, en fait, le dégoût des grosses? Comment se fait-il qu'à un moment donné, on dit ça c'est moche et ça c'est laid? Cette femme est belle, cette femme est laide. D'où ça vient? Et donc voilà, ça a commencé à être comme ça. Donc moi, je voulais pas du tout me mettre en scène, mais je m'étais dit ça serait intéressant que le fil rouge soit mon journal de bord d'opération, c'est-à-dire à travers mes rendez-vous. Eh ben, je fais des lectures, je creuse le sujet, et pour me positionner dans ma décision, j'ai besoin d'aller creuser voilà, et d'avoir des témoignages de différentes personnes. Donc je trouvais que c'était un fil rouge intéressant. Il se trouve que quand j'ai eu la bourse d'écriture, voilà, j'ai eu la bourse de la SCAN, donc ça c'était formidable, c'était un gros feu vert en disant bah oui, vas-y, c'est pas... J'avais peur de faire quelque chose d'égocentrique, de nombriliste, c'est le cas de le dire. Voilà, donc je me suis dit, voilà. Donc au début ça me dérangeait un petit peu, et finalement, en fait, on est quand même dans une ère de podcast de l'intime, hein, beaucoup, c'est quand même très à la mode en ce moment de parler de soi, mais de parler de sujets de société à partir de parcours intimes. Et donc en fait la RTS qui a proposé de me coproduire m'a vraiment demandé de ne travailler que sur ce journal intime, quoi, que c'était vraiment cette partie là qui les intéressait. Ça a été compliqué pour moi au départ, et donc malgré tout il y a quand même plein d'interviews dans le truc, et il y a des témoignages aussi de ma famille, mais c'est assez fictionalisé quand même, enfin bon, je le dis, je devrais pas le dire avant l'écoute, mais voilà. Donc c'est mon histoire, mais c'est pas mon histoire intime qui est racontée dans la fabrique de mon obésité, c'est celle d'autres que j'ai pris en témoignage, quoi.
D'accord. Et alors, quand même, est-ce qu'on peut donner une réponse sur pourquoi cette grossophobie ambiante, et est-ce qu'elle n'est pas quand même en train d'un peu de changer pour qu'on ait un espoir?
Alors, ouais. Dans le documentaire, donc juste pour justement clore avec la question précédente, effectivement, il y a des témoignages de personnes qui ont vécu la chirurgie, d'autres qui ne le souhaitent pas, et il y a également des paroles d'une chirurgienne, de spécialiste, de diététicien et d'une sociologue. Sociologue qui s'appelle Solène Karoff, qui est extraordinaire, hein, vraiment, sur cette thématique-là. En fait, moi, j'avais identifié le fait que sur la question de la grossophobie, on trouvait des études sociologiques que sous l'angle socio-économique des personnes. C'est-à-dire que oui, on est dans une maladie de la pauvreté, et c'est une réalité, hein, une maladie de la surabondance de propositions alimentaires, etc. Donc ça, c'est une vraie réalité. On voit bien la croissance de l'obésité aux États-Unis, mais qui maintenant arrive totalement en Europe, etc. Maintenant, moi, j'avais envie de poser la question sous ce postulat-là, c'est de dire l'obésité, c'est aussi le fruit de la grossophobie. C'est bien parce qu'au départ, on n'accepte pas les grosses, qu'elles essaient de ne plus le devenir et qu'elles deviennent irrémédiablement obèses. Et la seule sociologue qui travaille là-dessus, parce parce que c'est vraiment un angle mort des sciences sociales, la question de la grossophobie. Ça fait 3-4 ans qu'il y a des films et des documentaires qui sortent sur le sujet, uniquement, et le terme grossophobie est entré dans le Petit Robert cette année. Donc en fait, c'est la dernière discrimination absolument tolérée jusqu'ici. Le racisme est puni par la loi, l'homophobie est fort heureusement. Maintenant, la grossophobie, on est dans quelque chose qui est complètement banalisé. Les blagues sur les grosses, je veux dire, elles sont absolument acceptées partout, quoi. Enfin, et encore. Donc oui, c'est tout à fait récent. Et du coup, Solène Karoff, elle fait partie des gens qui font aussi avancer ça. Et elle a fait un bouquin là, qui s'appelle « Grossophobie, sociologie d'une discrimination invisible ». Parce qu'en effet, jusqu'ici, cette discrimination était totalement invisible, voire même complètement normalisée du fait qu'il y a une espèce d'idée de la beauté à la française, la belle femme française, mince, élancée, légère, discrète, éventuellement grande gueule, mais à condition qu'elle soit belle, quoi.
Mais c'est que en France, la... Non, c'est pas que en France, la grossophobie.
Non, alors, pas du tout. D'ailleurs, Solène Karoff, elle a fait une thèse de doctorat, études comparatives entre l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Très intéressant. Moi, j'ai vécu 10 ans au Québec. Bien évidemment que là-bas, l'obésité se subit aussi comme une contrainte à l'émancipation, etc. Mais c'est pas la même histoire. C'est-à-dire que là-bas, les corps... ils vivent différemment. C'est-à-dire, on voyait pas quand même dans les années 80 en France, enfin moi en tout cas c'est la perception que j'en ai, c'est que les nanas grosses quand il y en avait, elles rasaient les murs, puis elles étaient rarement accompagnées d'un homme, quoi. Au Québec, on est en Amérique du Nord, on est dans une histoire de l'obésité qui est beaucoup plus ancienne, donc avec entre guillemets une habitude de ces corps-là, et puis voilà, et puis un rapport au corps qui est quand même pas le même. Donc ça, en fait, c'est un sujet que j'aimerais creuser. Des études comparatives entre les pays, justement sur le rapport à la minceur, à la grosseur, à la beauté, c'est hyper intéressant.
Mais ça veut dire que peut-être qu'en France, on va finir par évoluer, s'habituer entre guillemets, même si le mot est un peu désobligeant. Ouais. Et c'est ça. Et puis, enfin, oui, comprendre aussi, prendre conscience, tout simplement, que c'est une forme de, ouais, d'exclusion.
Ben, en fait, c'est totalement une exclusion. Ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, tous les mouvements, MeToo et autres, enfin, tous les mouvements d'émancipation des femmes sont en train de questionner l'ensemble de ces questions. C'est-à-dire les injonctions aux femmes, que ce soit les injonctions de posture sociale, de tâches dans la vie quotidienne, dans le couple, de questions de genre, de sexualité, tout ça, ça soulève tout ça. Et c'est fabuleux parce que du coup, on parle d'émancipation dans tous les sens du terme. Donc, bien évidemment que les injonctions au corps des femmes... elles font partie de ces questions-là qui sont inhérentes à la question de questionner la question de la posture, la place des femmes dans la société, et que non, en fait, on n'est pas que des corps. Il y a le bouquin de Mona Chollet, par exemple, Beauté fatale, qui creuse tout ça, toutes les injonctions de beauté, de maquillage, d'esthétique, et la grosseur en fait partie, en fait. Donc, de toute façon, oui, c'est des sujets qui s'ouvrent. Les angles se délient là-dessus. On commence à questionner tout ça.
Il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir dans certains milieux militants et avisés, éclairés, etc. Il commence à y avoir des modèles aussi qui sont envoyés, qui sont différents. Même dans les trucs de vente par correspondance et tout ça, on commence à avoir des modèles de mannequins obèses et tout ça. Bon, maintenant, c'est un peu de dire que les grosses sont des consommatrices comme les autres, quoi. Bon, c'est encore un petit peu un autre truc. Mais oui, il y a des associations comme Gras Politique... qui lutte, qui milite contre la grossophobie médicale, qui est une grossophobie systémique en France, hein, parce que systématiquement, les médecins ils traitent les personnes obèses par le prisme de l'obésité, même y compris si elles viennent les voir pour un mal de pied, quoi. C'est insupportable, en fait. On est toujours ramené à notre poids. Mais moi, je travaille avec aussi des enfants et je pense que les questions des assignations, des stigmatisations de ce que les femmes doivent se faire endurer pour se sentir exister, bah, c'est qu'il y a du mieux, il y a beaucoup de mieux, mais il y a encore aussi plein de nouvelles formes d'injonctions qui arrivent, quoi.
Ah oui, par exemple ?
Bah, par exemple, ça va être les grosses fesses, les gros seins. On voit bien au niveau de la chirurgie esthétique, l'augmentation des grosses fesses, etc. Ça va être des nouvelles injonctions, ça va être la minceur, ça va être les grosses lèvres, ça va être les attitudes, ça va être... Enfin, on n'est quand même pas... on n'est pas que dans un truc super évolutif. Mais en fait... de tout temps et de toute culture, enfin, quel que soit le pays, je veux dire, on voit en Afrique, on pratique encore le gavage dans certaines régions pour que les femmes soient suffisamment rondes pour trouver un mari. Enfin, je veux dire, en fait, quelle que soit la culture et l'époque, il y a toujours eu des injonctions au corps des femmes. Donc là, elles sont peut-être en train de changer. Moi, je ne suis pas sûre qu'on soit encore sorti de cette question-là.
On peut donc écouter ce documentaire sonore de Stéphanie Pieri sur le site internet de la Radio-Télé Suisse, la RTS. On mettra le lien sur le site internet de Radio Évasion aussi, bien sûr.